France Inter.
Aujourd'hui, pour la grande première de Cyberpouvoir, les démocraties à l'heure de la technosurveillance, avec mon invité du jour, Olivier Tesquet, journaliste et grand spécialiste de la question.
On est dans un monde où il n'y a pas de liberté sans sécurité. La condition d'exercice de la liberté devient la sécurité.
Je suis Asma Mala et mon job à moi consiste à décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer actuellement autour de la question technologique. Et chaque semaine, nous allons nous plonger dans une grande affaire pour tirer méticuleusement le fil de cette histoire, lever le voile sur ce qui est en train de se jouer en coulisses, déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques qui s'affrontent et qui nouent le cœur de ces nouveaux jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. La grande affaire qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'affaire Snowden. Cyberpouvoir sur France Inter, c'est parti.
Les caméras extérieures avec analyse et reconnaissance d'image détectent les mouvements et nous permettent de voir plus précisément ce qu'il se passe en cas de danger.
Je voulais savoir combien de caméras vous avez dans votre île.
Je n'ai pas le chiffre exact, mais environ 5000.
La NSA suit à la trace tous les téléphones cellulaires du monde. Peu importe qui vous êtes, chaque jour de votre vie, vous figurez dans une base de données qui permet à des gens d'épier vos moindres gestes.
Cyberpouvoir, Asma Mala sur France Inter.
Tout commence en juin 2013. Le Guardian et le Washington Post lancent une énorme bombe. Des documents top secrets de la NSA, l'une des 18 plus puissantes agences de renseignement américains, sont exfiltrés par un jeune informaticien du nom d'Edward Snowden.
Depuis qu'il s'est réfugié à Hong Kong il y a 5 jours, Edward Snowden est introuvable. Cet ancien employé du renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain.
Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président si j'avais eu son adresse électronique.
Snowden travaillait alors sous contrat pour l'agence et son niveau d'accréditation lui donnait alors accès à des informations et des procédures de renseignement particulièrement sensibles. Exfiltration après exfiltration, Snowden va monter un dossier robuste qui va documenter les pratiques d'espionnage et de renseignement à échelle mondiale de la fameuse NSA. Le Monde retiendra 2 programmes en particulier. Le premier s'appelle X-Keyscore. C'est un système super performant d'interception capable de surveiller en temps réel une quantité absolument phénoménal d'informations sur un individu donné. X-Keyscore récupère le contenu, par exemple, des messages, l'historique de navigation, le contenu de vos messageries instantanées, etc. En fait, c'est quoi ? C'est une gigantesque base de données dont l'objectif est de déceler des comportements suspects en captant ce que la NSA va appeler poliment des signaux faibles. Le deuxième programme, qu'on va tous retenir, s'appelle PRISM. PRISM a l'allure de quoi ? En fait, c'est comme un méga moteur de recherche, super puissant. Un peu quand vous allez sur la barre de recherche de Google et que vous faites des recherches, vous savez. Et là, PRISM va pouvoir collecter, pareil, une masse gigantesque de données. Alors, tout va y passer. Mail, messagerie instantanée, vidéos, photos. Et en plus, PRISM est directement branché sur les serveurs des plateformes en ligne de l'époque. Vous vous souvenez, Yahoo, Facebook, Google. Et vraiment, son utilisation est absolument enfantine. C'est vraiment comme quand vous allez sur Google pour faire telle ou telle recherche. Et son objectif à lui, le fameux PRISM, c'est le ciblage de personnes qui vivent hors des États-Unis et pas forcément d'ailleurs des citoyens américains. Pourquoi j'insiste sur ce dernier point ? Parce que, à mon sens, c'est l'un des plus problématiques. Et c'est ce qu'on appelle la portée extraterritoriale du droit américain et de ses programmes. C'est-à-dire que, via ces deux programmes-là, les États-Unis se sont permis de contrôler et de surveiller des gens qui ne sont pas forcément des citoyens américains hors du sol américain. Par exemple, ces programmes que je viens d'évoquer peuvent autoriser le procureur général des États-Unis ou le directeur du renseignement national de surveiller physiquement, mais aussi sur Internet, certaines cibles, et ça, partout dans le monde.
L'affaire Snowden, technosurveillance, Data World ou l'insoluble question démocratique.
Il faut bien se le dire, des programmes de surveillance préexistaient déjà aux révélations de Snowden. Par exemple, rappelez-vous, pendant la guerre froide, le célèbre programme Echelon qui avait été mis en place par ce qu'on appelle les Five Eyes. Les Five Eyes, c'est cette alliance des services de renseignement entre États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, et qui va intercepter les communications via des satellites ou des câbles sous-marins. Plus proche de nous encore dans le temps, en 2021 va éclater un autre scandale, celui de l'espionnage, toujours d'ailleurs par la NSA, de communication de plusieurs hauts responsables politiques européens, dont d'ailleurs des Allemands et des Français. L'interception va avoir lieu entre 2012 et 2014 via, en fait, l'espionnage des câbles sous-marins qui atterrissaient au Danemark. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que rien de fondamentalement nouveau sous le soleil, sauf que, dans les révélations d'Edward Snowden, la grande nouveauté, le plus intéressant, ce sont les questions politiques que le scandale va soulever. J'aimerais en particulier insister sur deux grands points. Le premier, c'est que ces programmes ne sont pas nés par hasard. En réalité, on va les voir se mettre en place à partir du 11 septembre 2001, au moment où les États-Unis vont développer leur doctrine technosécuritaire et qui va ensuite essaimer un peu partout en Occident. Et cette doctrine, elle dit quelque chose de très simple. Compte tenu de la très forte disponibilité des données qu'on produit, nous tous autant que nous sommes sur les réseaux sociaux et les plateformes, toutes ces données-là peuvent derrière, ensuite, être exploitées à des fins de surveillance. Et c'est ça qui permet le passage à l'échelle. Et en particulier, ça pointe la continuité entre États et plateformes privées. Que ce soit une collaboration, une coopération volontaire ou subie, toujours est-il que cette continuité fonctionnelle entre ces infrastructures informationnelles que sont les réseaux et l'État fonctionne. Et quand on y pense, le petit hic de l'histoire, c'est nous. Je veux dire par là que, face à des régimes techno-autoritaires qui usent et abusent des technologies de surveillance, que l'on dénonce d'ailleurs tous régulièrement et avec vigueur, quelle doit être la singularité de notre modèle occidental à nous, c'est-à-dire nos démocraties? Face à une tentation de la technosécurité, on se retrouve souvent pris dans le faux dilemme sécurité versus liberté. C'est un peu comme si on vous demandait « Bah alors, tu préfères qui ? Papa ou maman ?» Et posée comme ça, la question, vous en conviendrez je crois, est franchement insoluble. Notre difficulté démocratique doit aussi être lue sous le prisme des tensions géopolitiques actuelles. Comment est-ce que nous, on va revendiquer notre modèle, et en fait nos valeurs, face à deux pôles, russe-chinois par exemple, qui, si sur le fond, nos États adoptent des doctrines et des pratiques qui parfois peuvent converger. Et là, je pense évidemment à tous les débats autour de la reconnaissance faciale qui reviennent régulièrement dans le débat public. Le tumulte géopolitique de ce début de XXIe siècle n'est pas simplement une affaire de frontières, de géographie ou de relations internationales, mais nous offre bel et bien une opportunité de réaffirmer ce que l'on appelle nous, ici, démocratie. Comment alors repenser ce projet démocratique, en fait, nos droits et nos libertés, autour de ces nouveaux pouvoirs, de ces cyber-pouvoirs? Et où en est la France sur ce sujet? C'est ce dont on va parler dans un instant avec mon invité, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et grand spécialiste de la question de la technosurveillance.
Les enjeux technologiques d'aujourd'hui, les enjeux politiques de demain. Cyberpouvoir sur France Inter.
C'était les géniaux Massive Attack, un de mes groupes préférés sur Inter. Vous écoutez Cyberpouvoir et on parle des affres de la technosurveillance.
Cyberpouvoir, Asma Mala, sur France Inter.
Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste à Télérama. Tu as beaucoup travaillé sur des questions de technosurveillance et écrit un ouvrage, État d'urgence technologique. J'ai beaucoup parlé en introduction du scandale de l'affaire Snowden, de techniques de technosurveillance de la NSA, des enjeux politiques, démocratiques, géopolitiques. Mais qu'en est-il de nous en France? Et notamment à pratiquement un an des JO, je crois. Tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on, nous, on est en train d'installer en France en termes de dispositifs?
Alors, l'affaire Snowden, c'est les révélations sur l'activité de la NSA, donc l'espionnage électronique des États-Unis et de leurs alliés. C'est-à-dire, c'est les fameux Five Eyes, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui partagent ces informations. Et donc, il y a des programmes qui font partie de cette architecture, mais qui sont pas des programmes mis en œuvre directement par les États-Unis. Je pense par exemple au programme Tempora, qui était mis en place par le GCHQ, qui est le pendant britannique de la NSA. Il n'aura échappé à personne, évidemment, que la France ne fait pas partie formellement des Five Eyes, même si, au titre de pays alliés, évidemment, des États-Unis, on bénéficie d'un certain nombre d'informations, ce qui fait dire parfois à certaines personnes de la communauté élargie du renseignement qu'il y aurait les Six Eyes et qu'on pourrait éventuellement être la sixième paire d'yeux, mais formellement, la France n'en fait pas partie. Donc ça veut dire que la France fonctionne sous un régime différent, et la première différence qui est rappelée constamment depuis des années par le législateur, par les gouvernements successifs, c'est de dire on a une approche dans la doctrine qui n'est pas la même. C'est-à-dire que d'un côté, on a les États-Unis qui pratiqueraient la pêche au chalut, pour reprendre une analogie que j'ai souvent entendue dans la bouche de responsables politiques français. C'est-à-dire, on ramasse tout. On fait des grands entrepôts de données dans lesquels on va chercher des signaux faibles pour détecter des menaces. Et nous, on pratiquerait la pêche au harpon. C'est-à-dire que, voilà, pour garder filer la métaphore maritime, on va dire, nous, on pratique une surveillance qui serait beaucoup plus ciblée. On ne récupérerait pas ces grands volumes de données, déjà parce qu'on n'est pas en mesure de les stocker pour les analyser. On n'a pas les outils technologiques. Mais enfin, pour identifier le poisson que vous voulez pêcher, il faut bien quand même faire une première reconnaissance. Il faut savoir que c'est ce poisson-là qui est intéressant et pas le poisson d'à côté. Donc ça veut dire qu'avant de lancer le harpon, il faut quand même récupérer quelque chose, c'est-à-dire soit les faire apparaître dans le radar, soit récupérer des choses avec des filets dérivants. Il y a cette question-là et à laquelle j'ai jamais eu de réponse tout à fait probante. Et effectivement, le dispositif qui, à l'époque, créait beaucoup de crispations et qui avait été déployé de manière expérimentale à ce moment-là. Faut en plus se souvenir le moment politique dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est une réforme des services de renseignement et un encadrement de leur activité qui intervient en pleine vague d'attentats de l'année 2015. C'est-à-dire qu'on a eu l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercacher au mois de janvier. On a la loi renseignement qui arrive au mois de mars. Alors, ce sont deux calendriers qui sont entrés en collision. La loi était évidemment en préparation avant ça, mais ça intervient dans ce contexte-là.
Cela dit, il me semble que Gérald Darmanin va finalement donner une réponse à ça.
Nous avons expérimenté à l'époque, sous le gouvernement précédent, des techniques de renseignement nouvelles, dont l'algorithme, que chacun, si j'ose dire, subit toute la journée, par Google, par Facebook, par Le Bon Coin, qui utilise ces algorithmes. L'État français ne l'utilisait pas.
C'est votre argument de dire on est de toute manière surveillé par Google, Amazon, donc pourquoi l'État ne surveillerait pas? C'est
non,
ça
mais même
dites,
le bon
ce qui
coin.
N'est pas exactement mais la même chose. Hein,
non,
l'État
mais même, le bon coin, même Le Bon Coin utilise des algorithmes pour savoir ce que vous souhaitez. La différence avec l'État, c'est que l'État, lui, va demander l'avis à 4 personnes, dont une autorité administrative indépendante, qui est la Commission nationale des techniques de renseignement, pour savoir si elle a le droit de le faire. Aujourd'hui, si une personne se connecte et regarde 3-4 fois des vidéos de décapitation sur Internet, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourtant pas un très bon signe, vous en conviendrez.
Avec cette loi
avec la loi, si elle est adoptée telle quelle par le Parlement, nous connaîtrons le fait que quelqu'un s'est connecté 3-4 fois, 5 fois, a fait des recherches sur les décapitations, par exemple, de Daesh. Nous aurons ce signalement qui est anonyme. Le chef de service de la DGSI, c'est-à-dire des services secrets français, demanderont l'autorisation au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et à la Commission nationale des techniques de renseignement, c'est-à-dire à 3 personnes différentes, dont une personne totalement indépendante, pour savoir si on peut lever cette anonymisation.
Donc en gros, Darmanin a tranché entre le harpon et le chalut, si j'ai bien compris.
Alors, on voit qu'en fait, c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. On a toujours cette obsession. Et c'est pour ça que dans les deux modèles, que ce soit la pêche au chalut ou que ce soit la pêche au harpon, ou qu'on soit plus probablement quelque part entre les deux. Et qu'en fait, ce qui dépend et ce qui varie, c'est la taille des mailles du filet, en fait. C'est ça, la vraie différence. C'est pas tant le chalut ou le harpon. L'État est confronté aux mêmes difficultés, à savoir, il y a eu deux révolutions, si j'ose dire, qui ont été deux obstacles majeurs qui se sont dressés sur la route des services de renseignement sur les 35 dernières années. D'abord, l'apparition et la démocratisation d'Internet. Ouais. C'est-à-dire que tout à coup, les flux de communication qu'il fallait intercepter étaient plus au même endroit, et donc il a fallu s'assurer et construire la coopération des grandes plateformes. L'affaire Snowden, c'est la révélation de cette coopération plus ou moins forcée, entre les services de renseignement et les grandes plateformes. Tout ça étant évidemment très lié aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, où il y a eu une généralisation de ce type d'outils, parce qu'à ce moment-là, il fallait identifier toutes les menaces, d'où qu'elles viennent, afin de se prémunir contre un événement de ce type. Et puis, post-Snowden, il y a eu une deuxième révolution, si j'ose dire, une deuxième révolution technologique qui est venue entraver cette action des services, qui est la généralisation des communications chiffrées. Alors, dit comme ça fait très barbare, mais en fait, au quotidien, c'est votre utilisation sur les messageries de type WhatsApp, de type Signal, etc., etc. Bon, chiffrement plus ou moins opérant, plus ou moins sincère, plus ou moins contournable, voilà. Mais la réalité, c'est que tout un tas de services de renseignement se sont retrouvés plus ou moins dans le noir, à ne plus pouvoir récupérer des flux de données qu'ils interceptaient jusqu'à présent. D'où la tentation très très forte d'intervenir plus en amont de la chaîne. Et donc on arrive sur cette obsession de la détection du signe faible. Et en fait, ce qui est assez à la fois surprenant, intéressant et inquiétant, c'est que cette logique est exactement la même que la façon dont en France on a construit le droit ou la justice antiterroriste. C'est-à-dire que depuis 1986, l'invention du droit antiterroriste, enfin la justice antiterroriste en France, on a cessé d'empiler des lois sécuritaires pour intervenir, et intervenir judiciairement parlant, de plus en plus tôt. Donc on a eu l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, puis on a eu l'entreprise individuelle terroriste. Et maintenant, on a des gens qui peuvent être arrêtés, voire condamnés, sur des éléments qui relèvent de l'exemple que donnait Gérald Darmanin, vous avez visité tel site 3 fois, 4 fois, additionné à tel autre signe faible, ça peut suffire aujourd'hui à ou obtenir une condamnation, ou alimenter des notes blanches des services de renseignement qui, elles, sont susceptibles de nourrir des procédures judiciaires. Donc en fait, tout un tas d'informations qui sont susceptibles d'être portées au débit d'individus sans qu'ils puissent réellement se défendre, ou en tout cas, il y a une asymétrie de la connaissance entre les deux parties. Et je crois que ce type d'intervention, comme celle qu'on vient d'entendre de Gérald Darmanin, devient quasi systématique dans la bouche des gouvernants, parce que le problème auquel ils sont confrontés, c'est ce problème-là. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que Gérald Darmanin, au premier chef, fait partie de ceux qui reviennent régulièrement à la charge contre le chiffrement des communications, en disant on a besoin de pouvoir lever le fameux anonymat dont il parle.
France Inter, cyberpouvoir.
Et nous sommes toujours accompagnés d'Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, qui a beaucoup travaillé sur les questions de technosurveillance, notamment en France.
Asma Mala.
En t'écoutant, moi, ce qui m'interpelle beaucoup en termes de réflexion un tout petit peu plus, disons, philosophique ou même politique, c'est d'abord l'inversement de la charge de la preuve. Donc on passe d'un système qui était l'une des bases de notre état de droit, la présomption d'innocence, à la présomption de culpabilité. Donc en fait, on va être capable aujourd'hui, avec cet enchevêtrement des réseaux sociaux, de toutes les informations, de toutes les données qu'on lâche sur Internet, de trouver l'aiguille dans la botte de foin, voire même de la fabriquer. Donc ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième, plus large, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé ces dernières années de la privacy, la protection de nos données personnelles. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un attachement de plus en plus faible de nous autres utilisateurs de ces réseaux, de ces plateformes, à nos données personnelles. Et je me demande comment est-ce qu'on va pouvoir repenser ce qu'est le modèle démocratique, si tant est qu'on ne veuille pas qu'il converge vers des modèles techno-autoritaires, si nous, citoyens, producteurs de ces données, on y tient si peu.
La première chose, peut-être, c'est, on peut entendre dans l'extrait Gérald Darmanin faire le parallèle avec les algorithmes du quotidien. Les algorithmes de recommandation, Le Bon Coin, l'algorithme de recommandation de Netflix, d'Amazon, de Facebook, etc., etc. En les mettant, ou en mettant en scène plutôt leur opposition, comme s'il y aurait d'un côté les mauvais algorithmes, ceux des puissances privées, et le bon algorithme, avec des sécurités, on va dire, mis en œuvre par l'État. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que dans ce calcul, dans ce scoring un peu permanent, de calcul de la dangerosité des individus, ou du caractère suspicieux de leur personne, il y a déjà une collaboration assez active entre tout un tas d'opérateurs privés et la puissance publique. Aujourd'hui, quand... la CAF utilise un algorithme pour attribuer un score de risque à des allocataires qui sont plus susceptibles de frauder que les autres, ou quand Bercy mobilise les ressources des réseaux sociaux pour orienter les contrôles fiscaux, on est dans une coopération, alors qui prend pas la même forme et fait pas intervenir les mêmes acteurs et intervient pas dans le même contexte politique qu'aux États-Unis avec l'affaire Snowden, mais on voit qu'il y a quand même une alliance entre le public d'un côté et le privé de l'autre. Ce qu'il faut rappeler quand même aussi un moment avant d'évoquer cette question assez cruciale de la vie privée ou de la privacy, qui est un terme un peu piégé, il faut aussi dire que ces dispositifs-là, et là que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, qui ont été déployés dans des contextes terroristes, sécuritaires, très compliqués, assez vite, on voit que ces dispositifs viennent avoir des conséquences sur d'autres catégories de population. Et quand on parlait des outils de la loi renseignement de 2015, aujourd'hui, ces outils-là, ils sont utilisés contre des cibles qui sont, a priori, pas des cibles terroristes, notamment les militants écologiques, mais comme maintenant, on considère que ce sont des éco-terroristes, pour reprendre aussi la terminologie utilisée par Gérald Darmanin, on voit que dans une rhétorique qui est à la fois une rhétorique sécuritaire et une rhétorique de désignation de l'ennemi, on est toujours en guerre contre quelque chose. Depuis 2015, en France, on a été en guerre contre le terrorisme, on a été en guerre contre le Covid, maintenant on est en guerre contre les éco-terroristes de Sainte-Soline. Et c'est pas une vue de l'esprit, je ne fais que répéter les éléments de langage prononcés par les gouvernements successifs. Donc on voit aussi le phénomène de tache d'huile, c'est-à-dire que l'erreur d'appréciation collective a été ou est encore de penser que ces dispositifs-là n'affectent l'existence que d'individus qui ont quelque chose à se reprocher. Et ça, c'est aussi le travail de SAP très efficace et très intense depuis des années, à la fois des responsables politiques d'un côté et des acteurs des grandes plateformes de l'autre, pour nous répéter à quel point, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher.
On n'a rien à cacher.
Moi, je me souviens de déclarations, il y a maintenant quasiment une quinzaine d'années, d'Eric Schmidt, qui était patron de Google à l'époque, qui disait... En gros, si on avait peur qu'une recherche sur Google puisse être portée à notre débit et présentée contre nous, finalement, puisse nous être imputée de manière négative, peut-être ne faudrait-il pas faire cette recherche Google en premier chef. Ce que je trouve assez terrifiant, venant de quelqu'un qui dirige une entreprise dont l'ambition affichée est de propager la connaissance.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une inadéquation totale entre la promesse et sa réalisation, ou en tout cas le commentaire qu'il y a apporté. Donc il faut réussir à sortir de cette ornière-là, mais c'est une ornière qui vient aussi du fait que ça fait des années qu'on parle de problématiques de vie privée, on parle énormément, quasi quotidiennement, de scandales autour de la vie privée liés à l'activité et à l'existence des plateformes, mais on parle d'une vie privée privatisée, en fait. C'est-à-dire que la vie privée, aujourd'hui, la privacy, c'est pour ça que je reprends ce terme qui me hérisse toujours un peu, parce qu'en fait, la privacy, dans l'esprit des gens, aujourd'hui, c'est juste un ensemble de paramètres qu'on règle sur une plateforme. C'est-à-dire que la privacy ne revient plus à dire « il y a des informations que je choisis de rendre publiques et puis des informations que je garde pour moi », c'est « je donne tout » et ensuite j'ajuste des curseurs pour dire « alors, ça je donne, moi ça je garde pour moi ». Et l'information, elle est là quand même.
Le point que tu soulèves là est absolument passionnant sur la modularité, la surpersonnalisation de ce qu'on pourrait appeler la privacy, qui d'ailleurs n'a pas exactement de traduction pure et parfaite en français. Et on continuera à investiguer justement cette question-là de la privacy juste après une petite pause musicale.
Tambour. 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 Es-tu le bon tambour? Tambour. 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 foncez vos tours. Tambour. Tu veux ma haine ou tu veux mon amour? Tambour.
C'était Bertrand Belin sur Inter. Cyberpouvoir, c'est reparti. On continue le top 6 de nos démocraties avec Olivier Tesquet, journaliste à Télérama qui a beaucoup travaillé sur les questions de technosurveillance, notamment en France.
France Inter. Asma Mala. Cyberpouvoir.
Le fameux baromètre sécurité des Français, fiducial au Doxa, paru donc en janvier 2023, exposait des chiffres assez parlants. Les Français soutiendraient le recours à l'intelligence artificielle dans les stades à 89% et sur la voie publique à 74%. En gros, les Français et l'État, dans sa, disons, politique sécuritaire, ont l'air de converger. Et la question derrière, politique, fondamentale, c'est comment est-ce qu'on arrive toujours à réconcilier cet idéal démocratique s'il est enfermé dans une forme de binarité toujours permanente, sécurité versus liberté?
Alors, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, c'est une question qui relève de deux mots, c'est-à-dire d'un côté le chantage et de l'autre côté le matraquage. C'est-à-dire qu'il faut refaire la petite histoire de cette expression qui est devenue une espèce de chanson de geste de la vie politique française qui consiste à dire que la sécurité est la première des libertés. On peut revenir, s'il fallait vraiment dater, on pourrait dire vraiment la toute fin des années 70, tout début des années 80, où il y avait un projet de loi qui était la loi Sécurité et Liberté, et où Alain Perfitte, à l'époque, dans l'hémicycle, avait prononcé une phrase qui ouvrait un peu les hostilités en mettant en opposition ou en relation ces deux notions, que serait d'un côté la sécurité, de l'autre la liberté. Ensuite, au fil des ans, c'est devenu un slogan, par exemple, sur les affiches de campagne de Jean-Marie Le Pen début des années 90, où voilà, c'était la sécurité première des libertés, vendu comme un slogan de campagne du Front National. Ensuite, c'est devenu quasiment un rituel d'accession au pouvoir, hein, que ce soit chez Chirac, chez Hollande, chez Sarkozy. Enfin, il y avait vraiment cette idée que aujourd'hui, si vous voulez accéder au pouvoir, si vous voulez accéder à l'Élysée, il faut avoir un discours sur l'insécurité. Ça fait partie des grandes thématiques de campagne. Et on pourrait se dire d'ailleurs que c'est aujourd'hui complètement réparti, que ce soit à gauche ou à droite de l'échiquier politique. En tout cas, dans des partis dits de gouvernement. L'une des dernières fois où, et c'est là où on voit la subtile évolution de la sécurité et de la liberté, j'ai retrouvé la phrase qu'avait eue Lionel Jospin lors du meeting de Villepinte en 97, qui est le moment très important pour la gauche, essentiellement le Parti Socialiste à l'époque, qui fait sa mue et qui embrasse le thème de la sécurité. En fait, c'est le moment où la gauche se dit on est obligé d'avoir un discours sur la sécurité parce que sinon on va juste se faire damer le pion par la droite et on est obligé d'avoir ce discours-là. Et donc lui disait, il n'y a pas de choix entre la liberté et la sécurité. Et on est passé, depuis 97, on est dans un monde où il n'y a pas de liberté sans sécurité. La condition d'exercice de la liberté devient la sécurité. Et là, on arrive au matraquage et au chantage permanent, parce que c'est devenu une martingale politique pour être élu et réélu, à surfer sur le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est l'espèce de terminologie officielle. Et donc, on répond souvent au sentiment d'insécurité par une illusion de sécurité, notamment à travers tout un tas de dispositifs technologiques, que ce soit la vidéosurveillance hier, la vidéosurveillance dite intelligente aujourd'hui, peut-être la reconnaissance faciale demain, on pourrait en citer beaucoup d'autres, et qui viennent mettre en marche cette rhétorique politique. Rhétorique politique qu'il est, à mon sens, urgent de déconstruire, à minima, mais on voit qu'aujourd'hui, ce discours de déconstruction de la sécurité première des libertés, il est extrêmement difficile, alors même que si on revient au texte vraiment très très fondateur, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même le droit à la sûreté, c'est le droit pour le citoyen d'être protégé de l'arbitraire de l'État, ce qui est exactement l'opposé, bien souvent, de la manière dont nos responsables politiques entendent cette vieille antienne maintenant de la sécurité première.
Donc il y a bien une mise à jour de nos institutions, par exemple sur les questions de transparence, d'audit, parce qu'il me semble qu'il y a quand même, alors c'est une expression qui est très laide, mais un sens de l'histoire, visiblement, qui va être très très difficile de désamorcer, d'autant qu'on voit bien aussi des logiques, disons, insurrectionnelles émerger, encore très faibles. Et donc ça va être très difficile d'annuler ou d'annihiler cette solution politique un peu simple qu'est la question sécuritaire. Mais en même temps, ce qu'il ne faudrait pas penser aussi l'État comme lieu non pas simplement de pouvoir, mais de contre-pouvoir. Et donc revoir aussi à l'aune de ces technologies-là la façon dont nos institutions fonctionnent.
Alors, je ne sais pas si le pouvoir peut être simultanément un contre-pouvoir, mais ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on a, et c'est là où la pente est assez, à la fois assez raide et assez glissante, c'est qu'on a d'un côté cette espèce de fuite en avant rhétorique. Il suffit d'agiter les bras en disant « la sécurité, la première liberté », pour présenter n'importe quel texte sécuritaire. Et en fait, il en va de même avec la question de la technologie, ou en tout cas des technologies sécuritaires, qui vont main dans la main avec cette rhétorique-là. C'est pour ça, souvent, quand on me pose la question sur les technologies de sécurité, en fait, le problème, au-delà des technologies en soi, c'est le discours politique qui participe de leur mise en œuvre et qui crée ce système, mais qui est plus même une boucle de rétroaction de l'offre et de la demande.
C'est un marché.
C'est un marché.
C'est un business.
C'est un marché. Et je pense que c'est important d'utiliser ce mot-là. C'est important de dire qu'aujourd'hui, on a un marché de la sécurité, on a aussi un marché de l'insécurité. Si je reprends, c'est une terminologie très libérale, hein, finalement, de dire, voilà, il y aurait un comme le marketplace of ideas cher aux anglo-saxons, dans ce marché des idées, l'insécurité, ou la sécurité, aujourd'hui, est un territoire très très investi, à la fois par la puissance publique et par les acteurs privés.
Merci beaucoup Olivier. Pour terminer, une question, la question signature de notre émission. Puissance, pouvoir, démocratie, État, entreprise technologique enchevêtrée, groupe cyber para-étatique, on n'en a pas parlé mais on pourrait, les fameux logiciels espions, la filière israélienne des logiciels espions aussi, qui participent à ce maillage de la société civile. Citoyens, évidemment. Cible, acteur, objet. Bref, d'après toi, Olivier Tesquet, qui dominera le 21e siècle ?
Je suis issu d'une génération, j'ai 35 ans, donc j'ai connu l'émergence de ces outils-là vendus comme des outils libérateurs, les réseaux sociaux, les printemps arabes, tout ça. Et ensuite, ça a été une espèce de lente descente. Enfin, d'ailleurs, pas toujours très lente, mais vraiment de descente aux enfers. Et moi, il y a une phrase d'Alain à laquelle je pense souvent qui disait que tout pouvoir sans contrôle rend fou. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment dans cette économie, et notamment cette économie de la surveillance, de la technologie, où tout est atomisé, y compris les luttes, y compris les modes de discussion, d'organisation, comment on fait pour collectivement recréer, ce contrôle, ces instances de contrôle, qui ne peuvent pas être que les instances de contrôle de l'État, pour précisément éviter que le pouvoir rende trop fou.
Olivier, merci beaucoup. La semaine prochaine, on parlera des réseaux sociaux, ces objets politiques mal identifiés avec Marie Pelletier. Et d'ici là, portez-vous bien.